Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis ravie de vous retrouver. En fait, ça fait très bizarre parce que c'est le premier épisode de podcast que j'enregistre depuis le calendrier de l'Avent. Et comme vous avez vu dans le titre, je suis à Montréal. Plus quand vous écoutez l'épisode, mais quand j'enregistre, je suis à Montréal. Et peut-être que vous allez vous dire, mais Léa, qu'est-ce que tu fous à Montréal? C'était pas prévu. Faut que je vous remette un peu dans le contexte. Mais avant de vous parler de tout ça, je tiens juste à vous dire que je suis actuellement dans un parc, plein de neige au sol, sur un banc, avec les derniers rayons de soleil, la lumière qui commence à être très très belle. Mais je suis surtout dans le quartier dans lequel j'ai vécu pendant 8-9 mois à Montréal, c'est-à-dire le quartier de Laurier. Je suis au parc Laurier, si vous connaissez. J'avais un appartement qui avait vu sur le parc Laurier, avec des propriétaires que j'adorais. Je vois l'appartement de là où j'enregistre le podcast. J'avoue, c'est un petit peu emotional. Je suis tellement heureuse d'être ici. Je vais vous raconter un peu tout ça. Mais oui, je suis à Montréal. C'est pas vraiment une balade, parce que déjà, qui enregistre un podcast dehors, alors qu'il fait actuellement, laissez-moi regarder, moins 7 degrés, ressenti moins 7, ça va. C'est pas si pire que ça. 16 heures, franchement c'est beau. Je vous mettrai des petits trucs sur l'Instagram de Simple Caféine. On aura fait balade à New York, balade dans ma ville, à Bruxelles, balade dans Paris, et maintenant, balade ou promenade à Montréal. Et notre palmarès augmente, hein. Ok, est-ce qu'on peut revenir sur le tweet de quelqu'un qui avait mis sur Twitter, genre, Léa JPLF, si elle parle pas de Montréal au moins une fois dans ses podcasts, elle meurt. C'est vrai. Et là, vous allez être servi parce que je suis actuellement à Montréal. J'ai vécu et étudié 4 ans à Montréal au total. C'est un peu la ville de mon cœur. J'ai 3 chez moi, je pense. Bruxelles, Paris, Lille, en gros la France, mais je dis plus Paris quand même. Et Montréal. Des endroits que j'adore, que je chéris de tout mon cœur. Je suis partie de Montréal pour plein de raisons, mais ça n'empêche que Montréal reste une place hyper importante dans mon cœur. Ça reste un endroit où j'ai plein d'amis, où j'ai une espèce de seconde famille. Seconde famille dont je m'étais un peu éloignée parce que, tu sais, quand tu vis dans une ville, t'as tendance à prendre pour acquis les gens. Les gens ont aussi tendance à te prendre pour acquis. Donc tu les vois pas si souvent que ça. Alors quand je suis rentrée de Montréal, je savais que j'avais des amis ici, mais je me disais que j'étais peut-être pas si importante que ça. Eh bien, je peux vous dire que actuellement, je me sens comblée. Mais pourquoi est-ce que t'es à Montréal, Léa? C'est bien beau de nous parler de ça, de pourquoi t'es à Montréal. Par où commencer? on va se dire les vraies choses, hein. Fin 2022, ça allait pas trop. Mais je m'en rendais pas compte que ça allait pas trop. Parce que j'avais la tête dans mes projets. Ces projets m'ont rempli de bonheur. Et je pense que ces projets m'ont aussi un petit peu détruit. Je vais être crue sur les mots parce que j'ai pris du recul. Je suis toujours en train de prendre du recul, ok? Peut-être que je vais plus être d'accord avec ce que je suis en train de dire dans quelques semaines, mais ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait mal parce que j'ai voulu handle tout ça toute seule. Et j'ai voulu gérer tout ça toute seule à la perfection, comme c'était dans ma tête, exactement. Et je peux vous le dire, je suis très fière. J'ai réussi à gérer tous les projets à la perfection comme je le voulais. La Léa perfectionniste, la Léa control freak, a eu tout ce qu'elle voulait. J'ai tout fait, quasiment toute seule. Même si c'était des co-créations, dans le fond, j'étais quand même très seule à sortir ces projets-là. J'avais l'aide, les compétences d'autres personnes, mais je me sentais très très seule avec des deadlines, avec le site internet, avec des trucs juridiques. Et ça a été une super bonne expérience. Et cette charge de travail-là, je l'ai très mal gérée. Je l'ai gérée de façon pas du tout saine. Et on l'entend dans les derniers podcasts, je pense. Je dis qu'il faut que j'ai un meilleur équilibre. Je dis que ça vaut la peine de revoir un peu mon équilibre, ma balance, parce que je peux pas juste travailler, non. Et j'avais beau le dire, mais je le faisais pas. C'était bien beau de le dire, c'était bien beau de le conseiller, c'était bien beau de le mettre dans ce que je voulais accomplir en 2023, mais il fallait peut-être que j'y pense au moment même. Parce que ce qui s'est passé, c'est que déjà après les projets, vous vous en doutez, il y a tout ce qui est SAV, il y a tout ce qui est colis perdus, il y a des colis qui ont été retournés parce que certaines personnes n'ont pas eu le temps d'aller le chercher en point relais. C'est de la logistique en plus, ça fait partie du métier à part entière, mais justement, lancer une marque, c'est un métier à part entière. Et j'ai déjà un métier. Que je veuille ou non dire que l'influence, c'est un métier, que je me sente légitime ou pas, ça en est un. Et le problème avec comment est-ce que j'ai géré tout ça, c'est que je me suis mis aucun cadre. Aucun. Je me suis pas donné le droit de respirer un jour dans la semaine. Je me suis pas donné le droit de respirer avant de dormir. Je me suis pas laissé le droit de respirer le matin en déjeunant. Je me suis pas laissé le droit de respirer en mangeant le midi. Comme ça pendant 3 mois. Et évidemment, depuis plus longtemps, parce que j'ai jamais réussi à bien manager mon emploi du temps. J'ai toujours rêvé de faire ce que je faisais. Donc le jour où j'ai eu l'opportunité de faire de la création de contenu à temps plein, d'essayer que ça marche, de lancer des trucs, bah je me suis dit, Léa, tu le fais à 100% ou tu le fais pas. Mais bref, c'est de ma faute, j'ai mal géré. Et plusieurs fois, on m'a dit, Léa, fais gaffe, waouh, tu bosses beaucoup, comment tu fais, t'es super organisée. Bah, relancer ce projet-là, demain, je le ferai exactement pareil, mais d'une différente manière. Le résultat de la co-création de café serait le même, le résultat du merch serait le même, le résultat de la co-création de tasses serait le même, le résultat du site internet serait le même, mais je me tournerais vers des gens dont c'est leur métier, je déléguerais plus et je ferais plus attention à moi, surtout. Donc je suis arrivée le 21 décembre, on va dire, plus ou moins au moment de la dernière sortie de la co-création, plus ou moins au moment du podcast avec Ticia, si on doit se dire les choses. Oui, désolée, vous allez entendre des petites grues. C'est certainement les grues qui déneigent les rues de Montréal. J'ai été dans les extrêmes et j'ai vraiment senti ce truc-là au moment où j'avais plus tant de projets à sortir. Ça veut dire que pendant 2 mois et demi, je travaillais de 9h du matin à 2h du matin, 3h du matin, tous les jours, sans voir personne, juste en étant enfermée dans un 35 mètres carrés à Paris, ce qui est d'ailleurs une chance, je le reconnais, d'avoir un 35 mètres carrés à Paris. Un studio, c'est très bien. Et les seules personnes que je voyais, c'était des personnes, des collègues. C'était pas des amis à qui je pouvais parler des choses. C'est pas des vrais amis. Quand je dis c'était des collègues, c'est des gens dans l'influence, c'était des événements, c'était comme un peu des réunions de travail. Comme si vous faisiez du télétravail toute la semaine pour votre boîte, et les seuls contacts physiques que vous aviez avec des gens, et en fait, c'est des gens de votre boîte que vous rencontrez en vrai une fois par semaine. Il n'y a aucun moment où tu arrives à être déconnecté, à relâcher la pression, à voir les gens qui font attention à toi, quoi. En fait, tu croises même personne qui te dit « Ça va ? Est-ce que t'es bien ? Est-ce que tu te sens bien ? Comment ça va, toi, en ce moment ? Tu travailles beaucoup ? T'as l'air bien ? T'as l'air pas bien ? T'as l'air fatigué ? Est-ce que t'es sûr que ça va ? Est-ce que t'as besoin d'aide ? T'as pas ça dans ton entourage. Parce que tu vois pas ces personnes-là. Parce que tu leur dis « Je suis désolée, en ce moment, je travaille sur un gros truc. Ça va être difficile pour se voir. Je suis désolée, genre, je peux pas, mais après que ça soit sorti, j'aurai tout le temps pour te voir. » Ça a été ma grosse erreur. En fait, quand j'ai eu fini de sortir tous ces projets, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'étais sur un high. Je pensais pas vous parler de tout ça, je vous avoue, parce que j'ai pas envie d'être vulnérable et j'ai pas envie de... Ça me fait chier d'admettre qu'il y a des choses qui ont pas été... Mais ça fait partie du truc. Je referai plus ces erreurs. Puis si vous écoutez ce podcast, puis si jamais vous saurez que je referai plus ces mêmes erreurs, ok ? Je les ai apprises, je vais plus les refaire. On travaille dessus, on évolue. Le 21 décembre, je suis arrivée à quatre pattes un peu, genre à Lille, notamment chez Ticia. J'étais pas bien, j'étais épuisée. En fait, vous savez, quand vous bossez énormément, à un moment donné, ça devient une habitude. À un moment donné, t'es en pilote automatique, tu le fais avec tout ton cœur. Vraiment, la passion est là, ton cœur est là, t'as envie, t'es heureux, t'es reconnaissant, t'es genre waouh, c'est insane. Imaginons t'es à fond dans un sport, imaginons t'es à fond dans la musique, imaginons t'es à fond dans un projet, tu donnes corps et âme là-dedans, tu comptes pas tes heures, c'est ta passion, c'est aussi un peu ton métier, c'est ta passion, c'est ta passion, c'est ta passion. Tu fais ça, t'apprends des choses, t'évolues, tu vois que t'évolues, tu vois que tu construis quelque chose et t'es genre waouh, 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 waouh. Un jour tu finis ton projet, mais il y a un truc dans ton cerveau, que ton corps, que ton cerveau, en tout cas que mon corps et que mon cerveau n'ont pas compris, c'est que du jour au lendemain, quand le projet était sorti, j'apprenais plus rien. J'avais plus de site internet à faire, j'avais plus de méthodes de paiement à configurer, j'avais plus de trucs à apprendre, j'avais plus de trucs juridiques à comprendre, j'avais pas plus rien à faire parce que j'avais encore le podcast, mais j'apprenais plus rien de nouveau et pourtant mon corps était toujours sur un high de travail. Ça se traduisait par mon cerveau qui arrêtait pas de penser. C'était impossible pour moi d'arrêter de penser, c'était impossible pour moi de me dire que j'allais me réveiller plus tard que 9h, c'était impossible pour moi de me dire que j'allais me coucher plus tôt que 3h, c'était... Je pouvais pas reprendre un rythme plus bas. Je pensais. Je suffoquais presque, je culpabilisais. Ça se traduisait par des angoisses, des tremblements, un vide, un désintérêt pour beaucoup de choses, une envie d'être seule pour pouvoir avancer sur des projets, mais l'impression d'être vide et d'avoir rien à faire. Le sentiment d'être très seule aussi, parce que je me suis mise toute seule à l'écart. Et puis quand faut revenir, c'est pas si facile de revenir. Et puis les gens continuent leur vie aussi pendant que t'es pas là. J'ai terminé les épisodes du calendrier de l'Avent, un peu sur les genoux, parce que ça n'empêche que c'était beaucoup de travail quotidien et beaucoup d'énergie, mais j'ai adoré faire ça. Si on me demande si je le refais pour l'année prochaine, je le refais avec grand plaisir l'année prochaine, certainement que je le ferai autrement. Je changerai quelques dispositifs pour me sentir bien, le faire mieux et que ce soit hyper sain. Il y a un bel oiseau là en face de moi, je sais pas ce que c'est pas un pigeon, il est un peu fluffy, il a la taille d'un pigeon. Bref. Je pense que je commençais déjà à pleurer à ce moment-là. Arrive le 24 décembre. Le 24 décembre, je fête Noël en famille avec ma grand-mère, mon papa, ma maman et moi. On va dire que c'était ça. J'étais lessivée. Déjà, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais on a adopté un petit chien pendant le temps des fêtes pour aider Béline Pets and Hope de l'association. Je vous avais dit que je le ferais peut-être et on l'a fait. Donc, pour avoir la suite de cet épisode où je vous disais que j'aimerais bien adopter un chien, avoir un peu de zoothérapie et pouvoir donner de l'amour et m'occuper de quelqu'un d'autre que moi, quelqu'un d'autre que mes projets. En fait, je pense combler un vide que j'avais par rapport au fait que j'avais fini mes projets. Ma maman et mon papa ont été chercher ce petit chien à Bruxelles. Ils l'ont ramené chez ma grand-mère qui a accepté qu'un petit chien fête Noël avec nous. Et bref. C'était génial, ça faisait du bien, on était en famille, c'était chill, c'était pas un gros truc, on s'est pas couché tard, c'était juste. Mais j'étais épuisée, j'avais pas faim. Me mettre à table, ça me demandait beaucoup d'énergie, j'étais vraiment lessivée. Le 25 décembre, je me réveille le matin et je suis en retard parce qu'on doit aller chez mes cousins, chez mon parrain, chez ma tante. Et je suis en retard et aussi j'ai encore une fois mal dormi parce que cette fois-ci je dormais avec un petit chien. J'avais peur à boire toute la nuit et réveille ma grand-mère, donc par peur de la déranger, j'ai pas bien dormi. Le chien est venu me lécher le visage en pleine nuit, je comprenais rien à ce qui se passait. Je me suis jamais occupée d'un petit chiot. Bref, j'ai mes orteils qui tombent là, genre qui enregistre un podcast sous moins 7 degrés à Montréal à 16h20 un 10 janvier. Personne, vraiment personne. Je vais perdre mes doigts de pied, c'est officiel, vraiment. J'étais en retard et mon papa était un peu agacé, ce que je peux comprendre parce que après fallait encore qu'on rentre le soir à Bruxelles. Et on avait envie d'être avec mon autre grand-mère, mon parrain, mes cousins, pas faire ça speed. Donc, il me speed un peu. Et moi, j'avais pas fait ma valise. Donc, je commence à faire mes trucs, ça faisait 5 jours que j'étais chez ma grand-mère, je range un peu tout. Et à ce moment-là, dans ma tête, je sens que ça va pas. Je sens que je me sens pas bien, je sens que... ça va pas mieux qu'hier soir, je suis toujours très très fatiguée. Et au-delà d'être fatiguée, je sens que j'ai une angoisse, je sens que j'ai un truc dans ma gorge, je sens que j'ai une boule dans ma gorge et genre je sens que ça va pas. Vraiment que ça ne va pas. Ma mère monte, je m'effondre en larmes et je lui dis genre ça va pas, j'ai l'impression d'avoir un problème, j'ai l'impression d'être malade, j'ai l'impression... il y a un truc qui cloche et à ce moment-là, j'avais même l'impression que j'allais mourir. Genre j'étais genre, il y a un truc qui cloche chez moi, je suis malade, ça fonctionne pas. Mon papa se rend pas trop compte, c'est normal, je m'exprime pas, donc il me presse encore. Moi, ça va toujours pas mieux. Finalement, on monte dans la voiture, j'ai le chien avec moi sur moi, et je me sens étouffée, je me sens oppressée, j'ai envie de pleurer, j'ai l'impression que je suis dans un état second, j'ai l'impression que j'ai un stress immense, une angoisse immense, j'ai l'impression que je vais arriver chez mes cousins, je vais m'effondrer, ça va pas fonctionner. Je pense que c'est une crise d'angoisse, mais à ce moment-là, je comprends juste pas ce qui se passe. Ma mère me dit, fais des grandes inspirations, ça va aller, genre, calme-toi. On arrive chez mes cousins. J'avais texté mon cousin avant pour lui dire « Hey, ça va pas trop, juste comme ça, tu sais. » J'arrive chez eux, finalement tout va bien, mais je suis vraiment dans un état où si je parle de travail, si je parle de mes projets, si je parle de tout ça, j'ai un peu envie de vomir, j'ai des angoisses, je suis all over the place, je tremble. Ça ressemble à un début de burn-out. Je comprends pas comment est-ce que je me suis mis dans un état pareil. Et je culpabilise de m'être mis dans un état pareil parce que je fais ce que j'aime ce que je fais, mon métier est ma passion. Et c'est peut-être là où est le problème. Quand ta passion devient ton métier, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Sauf que quand tu la gères très mal, je pense que c'est aussi la pire chose qui peut t'arriver. Parce que si jamais à un moment donné tu te pousses à bout, ce que t'aimes le plus au monde, qui est ta raison de vivre, ce qui te fait te lever le matin, peut aussi devenir ce qui te détruit au final. Ça a été difficile de me rendre compte de tout ça, je vous avoue. Je vous en parle maintenant avec beaucoup de recul. Mais bref, avant d'aller chez mon cousin et tout ça, en fait, mes parents n'étaient pas encore arrivés à Lille, chez ma grand-mère. En fait, j'ai reçu un message du gouvernement par rapport à ma demande de résidence permanente. Le gouvernement m'a demandé un document en plus. Et en fait, ça m'a mis une petite lueur dans les yeux, une petite, je dirais plus un petit truc dans la tête. Ça m'a planté une petite graine. Et en fait, je me suis dit, il faut que je me casse. Il faut que je retourne à Montréal. J'ai besoin. J'ai checké les billets d'avion. Les billets d'avion étaient entre 550€ et 800€. C'est un coût. Mais je me suis dit, c'est un coût qui reste très élevé. Mais on parle d'un billet pour dans 6 jours, dans 5 jours. Et je le voyais un peu comme une issue de sortie et une issue de secours surtout. Parce que je me sentais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et je savais pas comment aller mieux. Je pense que quand tu te sens pas bien, le pire feeling, c'est de se dire, je sais pas comment aller mieux. J'ai beau tout faire, tout va bien dans ma vie, je suis bien, je suis heureuse. Alors tu culpabilises, je culpabilise de pas aller bien parce que je vis la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Une communauté tellement bienveillante et tellement là pour moi et tellement incroyable, tellement pas dans l'excès et tellement saine que je culpabilisais d'être dans cet état-là et je trouvais pas d'issue. Je voyais pas d'issue. Et Montréal a été comme une étincelle dans ma tête. Alors j'ai envoyé une capture d'écran à mes parents parce que j'ai besoin de l'approbation de mes parents. Et mes parents ont tous les deux dit, je pense que c'est une très bonne idée, Léa. Donc le lendemain, j'ai pris mes billets d'avion pour Montréal. Non, j'ai d'abord envoyé des messages à mes amis parce que j'avais envie de savoir si quelqu'un allait pouvoir m'héberger. J'avais envie de savoir aussi si mes amis allaient être là pour moi, si j'allais pouvoir voir des gens ou si j'allais juste être toute seule à Montréal, parce que ma crainte à Montréal, c'était d'avoir perdu ma place en tant qu'amie, de plus revoir des gens, qu'ils aient plus envie de me voir, qu'ils aient pas spécialement envie. En fait, est-ce que j'avais vraiment encore des amis? Et directement, j'ai plein d'amis qui m'ont dit genre, prends tes billets et viens chez nous. Je reviens. Alors c'est ce que j'ai fait. Je vous passe les détails de Inès qui passe énormément de temps avec moi le soir quand je reviens à Bruxelles deux jours parce qu'elle elle a un feeling que je vais pas bien. Ça, elle me l'a dit après. Ça m'a d'ailleurs beaucoup fait pleurer parce que c'est pas quelqu'un qui se rend forcément compte que si on lui dit pas les choses, elle est pas instinctive. Genre moi non plus. Je veux dire, je suis... Voilà. Et là, le fait qu'elle sache que j'aille pas bien et qu'elle passe autant de temps avec moi, mot pour mot, sans chialer, Inès m'a dit « Ton état me faisait peur. » Parce que je t'avais jamais vu comme ça. Et c'est vrai que j'étais tellement triste que je pense que ça devait transparaître. Et encore une fois, j'étais triste en étant totalement heureuse de ce que j'avais fait, de qui je suis, de chanceuse, reconnaissante. Donc c'est un feeling qui fonctionne pas. Genre c'est contradictoire avec tout ce que je vis. Et ça, c'est très culpabilisant. Je vais perdre mes doigts de pied. C'est sûr, les gars, je vais perdre mes doigts de pied. Attendez, je vais aller marcher un peu là, parce que j'ai pas envie de perdre mes doigts de pied quand même. Ok, vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais je vais vous le dire. En fait, peut-être avec les bruits ambiants, je ne suis plus à Montréal à l'heure où je continue ce podcast-ci. Les derniers mots que vous avez entendus de moi, ça devait être « Mes orteils gèlent, il faut absolument que je rentre pour pas les perdre ». Effectivement, je suis rentrée chez mes amis, et puis bah, mes amis étaient là, et donc du coup j'ai parlé de ma journée avec eux, etc. Puis les jours se sont très vite enchaînés, et en fait, mon aventure à Montréal s'est terminée, donc je suis rentrée. Et là, ça fait maintenant 6 jours que je suis rentrée à Paris, et j'essaye de me remettre dans le bain, j'essaye de recommencer l'année sur des bonnes bases, de pas reprendre mes mauvaises habitudes qui m'ont menée dans l'état dans lequel j'étais pour vous faire ce podcast justement. En fait, à la base, je voulais pas vous parler de tout ça. Honnêtement, comme je l'avais pas process dans ma tête, comme je savais pas si ça allait mieux, etc., je voulais pas trop vous en parler et puis ça s'est fait tellement naturellement quand j'étais au Parc Laurier, les pieds dans la neige à Montréal, que bah, je me suis pas arrêtée de parler et ce podcast est beaucoup plus long que ce que je pensais aussi. J'avais fait des petits tirets de quoi je voulais vous parler et en fait, je les ai même pas suivis dans mes notes d'iPhone. C'était vraiment du gros freestyle de moi qui vous racontait mon état d'esprit avant d'arriver à Montréal. Je suis rentrée à Paris, donc c'est plus vraiment une promenade dans Montréal, mais on va dire que ça l'est un peu toujours parce que j'ai quand même des choses à vous raconter là-dessus. Là, je suis revenue à Paris et j'ai essayé de garder quelques bonnes habitudes que je me suis appropriées, faites à Montréal, on va dire. Bon, si vous entendez en bruit de fond des bruits d'ascenseur, c'est mon immeuble, ok? Il est 18h20, les gens rentrent du travail, je vais pas m'en cacher. Et je vais pas aller m'isoler pour vous faire ce podcast, j'ai vraiment envie de le faire maintenant. Et justement, une des premières choses que j'ai décidé de plus faire, c'est m'écouter. C'est d'écouter mon corps et ma tête, comment est-ce qu'elle réagit à l'environnement autour de moi. J'ai toujours été très stressée comme personne, je pense que vous le savez. Je vous parle de temps en temps de santé mentale, mais là je sens que mon stress a atteint un next level. Et parfois je suis dans des situations où juste je contrôle plus mon stress. Et c'est vraiment frustrant pour quelqu'un qui est control freak sur elle-même. Donc là je m'écoute plus. Si j'ai quelque chose à faire que je m'étais dit que je ferais et que finalement je sens que ma tête n'est pas là, que mon corps n'est pas là non plus, je m'autorise le luxe de ne pas le faire ou en tout cas faire autre chose ou simplement prendre 10-15 minutes pour moi, changer d'environnement, marcher pour aller à un café, faire une petite balade dans Paris, lire, ça je vais vous en parler aussi. Bref, j'essaye de me retrouver dans le moment présent parce que je pense que tout ce stress que j'ai accumulé, que je me suis infligée toute seule, bah en fait ça m'a un peu détachée du moment présent. Et pendant toute une période, quand je savais vers où j'allais, quand je savais ce que je faisais, quand je savais mes deadlines, quand je me mettais de la pression à moi-même, je le mettais un peu en arrière-plan, je passais au-dessus et je continuais à ce que j'avais à faire. Maintenant je peux juste plus, mon corps ne supporte plus, donc je m'écoute un peu plus. C'est pas du tout pour ça que je fais moins de choses, au contraire, et ça je pense que c'est un truc qu'on peut tous en tirer de comment est-ce que je me sentais, de en ce moment, même le fait que je suis un peu plus stressée, un peu plus angoissée, qu'avant, c'est que si tu t'écoutes, si tu fais les choses en temps et en heure, comment toi, ta tête et ton corps en ont besoin, c'est-à-dire te donner un break de 10 minutes si tu sens que t'es stressé, t'es déconnecté de la réalité, il y a quelque chose qui fonctionne pas, bah peut-être que tu feras mieux autre chose. Peut-être que c'est le moment de justement te laisser un 10 minutes à toi, et puis tu reprends ta journée, tu fais une autre tâche, peut-être que tu feras mieux l'autre tâche, peut-être que ta journée sera tout aussi bien, juste pouvoir un peu plus s'écouter, au lieu de se mettre une espèce de to-do list dans sa tête à respecter de autant de choses à faire. Et puis, toutes ces choses, tu vas les faire, mais pas sans conséquence, parce que à la fin de la journée, tu les auras toutes faites, mais tu ne seras pas bien du tout. Alors que si jamais tu t'écoutes et tu t'autorises à modifier cette to-do list, pas spécialement mettre moins de choses, parfois il faut, mais tout simplement changer par d'autres tâches qui sont tout aussi importante, tout aussi bien, mais à un autre moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Être un peu moins rigide sur ce que tu dois faire au moment T parce que tu t'es dit que tu devais le faire au moment T, alors que si tu le décales de quelques heures, voire une journée, c'est pas si grave que ça. Évidemment, on n'a pas tous toujours le contrôle sur ce qu'on doit faire, mais parfois, quand on a l'opportunité, ça vaut la peine de se laisser changer nos plans, en fait, si c'est ce qui nous fait du bien. J'avais envie de vous parler, quand j'étais à Montréal, de tout et de rien, et de Montréal en particulier. Ce que j'ai particulièrement aimé en allant à Montréal, parce que j'en avais profondément besoin, parce que je me sentais vraiment pas bien et que j'arrivais pas à enlever ce stress, ces angoisses. J'étais sur un high de travail, comme je vous ai expliqué, que j'arrivais pas à redescendre, j'arrivais pas à moins faire, j'avais besoin de changer d'environnement. Et c'est ce que j'ai fait en partant à Montréal. Mais à Montréal, j'ai surtout retrouvé mon quartier. Et en fait, Montréal, c'est encore mon chez-moi, dans ma tête, et retrouver ce quartier-là, ça m'a apaisé. Alors moi, c'est Montréal, peut-être que vous, c'est le jardin de votre grand-mère, peut-être que vous, c'est une plage, peut-être que vous, c'est un endroit en particulier, mais le fait d'être dans un autre environnement et de retrouver mon quartier dans lequel j'ai été si heureuse, qui me rend toujours autant heureuse, ça m'a vraiment aidée. Un truc que j'ai compris aussi, que je sous-estimais en fait, qui pouvait me faire du bien, c'est le fait de... Je ris en disant ça. Franchement, je ris parce que il y a quelques mois, j'aurais dit mais alors là, jamais. Je suis la première à vous dire que lire, ce n'est pas pour moi, parce que j'ai une attention sur 10 de moins 0,5 sur les pages d'un livre. Sincèrement, se plonger dans une histoire, lire, c'était pas pour moi. Même à l'école, si mes professeurs écoutent ça, je suis désolée, je lisais des résumés parce que je n'arrivais jamais à finir les livres. J'étais trop lente, je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, je ne retenais pas l'histoire et j'étais nulle en compréhension à la lecture. C'est le seul cours que j'ai toujours coulé, que j'ai jamais réussi, genre en néerlandais, en anglais, en français, peu importe la langue, peu importe le niveau, j'ai du mal à comprendre les choses quand je les reformule pas. Donc étudier un cours, si je le reformule dans mes mots, ça fonctionne. Lire un livre, ça fonctionnait pas. Et en fait, j'ai mon amie Ise, donc gamine vagabonde, qui a la marque de bougie Monday, qui lit énormément. Et vraiment, je comprends pas le délire. Enfin, plonge dans des histoires, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Bah en fait, j'ai envie de me taper sur la tête, de me taper sur les doigts à dire ça. Parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait me faire énormément de bien. Je vous ai expliqué que j'avais gardé un petit chien pendant les fêtes. La raison aussi pour laquelle ça m'a fait du bien, c'est parce que je me focussais sur quelqu'un d'autre que moi, sur un autre projet que... ce que j'essayais de créer, ce que j'essayais de mettre en place, et sur quelque chose de très léger, entre guillemets aussi. Recevoir de l'amour d'un chien, c'est très léger, s'occuper d'un chien, c'est dur, hein, mais c'est, entre guillemets, léger pour moi, ça me fait du bien. Et je me suis dit que j'allais essayer de lire, parce qu'en fait, quand tu lis, tu te plonges dans une histoire qui n'est pas la tienne, tu déconnectes de ta réalité pour rentrer dans un autre univers, et bah, mine de rien, ouais, c'est fou la puissance que ça a eu sur moi. J'ai acheté un livre que je voulais lire depuis plusieurs mois, en fait, dont mes amis au Québec m'ont souvent parlé, mais je me suis toujours dit non, c'est pas pour moi ça. Les seuls livres que je voulais bien acheter, c'était les livres de développement personnel qui allaient m'apprendre des choses, entre guillemets, genre un peu me taper sur les doigts et me dire regarde, tu dois faire ça. Sauf qu'en fait, ça fonctionnait même plus. Enfin, j'ai jamais réussi à les finir. On va se dire les choses, je n'ai jamais fini ces livres de développement personnel là. Je n'arrive pas, ça fonctionne pas. Le livre que j'ai acheté, c'est le Why Café. Et c'est vraiment par hasard. Mes amis m'ont trouvé en larmes, j'étais pas bien, je me sentais pas bien, j'arrivais pas à... Je culpabilisais de pas faire de choses, je culpabilisais de ne pas aller voir le Vieux Montréal, je culpabilisais de ne pas travailler, je culpabilisais de pas avoir mes plans pour 2023. Mon high de travail ne voulait pas descendre. Et mon amie Sophie m'a dit, moi je vais aller au Renaud-Bray, donc qui est une espèce de grande librairie où il y a des jeux, je sais même pas comment dire ce que c'est au Québec, mais bref, dans un magasin, je vais acheter un puzzle. Et c'est aussi une librairie. Et en fait, en montant les escalators, à ma droite, j'ai vu le livre Le Why Café. Et je me suis dit, ok, je vais aller le trouver en seconde main, en friperie, parce que je l'ai vu souvent. Mais en fait, je l'avais. Et il y a un truc qui m'a dit, Léa, ne le lâche pas, t'en as besoin. J'ai finalement acheté ce livre neuf, alors qu'il est facilement trouvable, je suis sûre, en bibliothèque, en seconde main, je vous jure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Et je l'ai pris. Je me suis dit, Léa, prends-le. Et en fait, c'est un livre, c'est un livre qui te remet un peu en question sur ton job quand t'as un job de 9 à 17 et sur ta vie en général, qui te demande si tu vis vraiment la vie que t'as envie de vivre. Et moi, personnellement, oui. Sauf qu'au moment T, avec tout le stress et les angoisses que j'avais et la charge de travail que je me mettais, je me suis dit peut-être pas en lisant ce livre. Attention, je ne vais pas du tout diminuer ni arrêter ce que je fais, je vais juste mieux m'organiser. Qu'on soit d'accord, qu'on mette les points sur les i, les barres sur les t, ok? J'ai fini le livre en 12 heures. Vraiment, 140 pages de livre, écrit gros, petits chapitres, parfait pour recommencer à lire et pour du coup pouvoir faire des pauses et pour pas être découragée. Ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai déjà déconnecté de mon téléphone, qui est, qu'on le veuille ou non, personnellement mon objet de travail, donc un truc qui me stimule tout le temps. Être sur les réseaux sociaux, c'est un hobby, mais c'est une passion, mais c'est aussi mon métier. Et donc en fait, quand je scroll TikTok, quand je scroll Instagram, je peux pas m'empêcher d'avoir des flashs d'idées, parce que c'est ma passion, c'est mon métier, je déconnecte jamais. Sauf que je peux pas faire ça, c'est pas possible, sinon je suis tout le temps le nez dedans. En fait, en lisant, j'ai réussi à totalement déconnecter, j'ai réussi à m'apaiser, j'ai réussi à penser à quelque chose d'autre, j'ai réussi à m'imaginer quelque chose d'autre que mes angoisses, que ma culpabilité, que à penser à des trucs qui pouvaient un peu me rendre triste parce que je culpabilise de pas être assez là pour mes amis, je culpabilise de pas être assez là pour ma famille, je culpabilise de ceci, de cela. Bref, ça m'a vraiment plongée dans un truc qui m'a fait du bien. Je vous raconte vraiment comment les livres m'ont aidée et j'aurais jamais pensé dire ça, ok? Alors, 2 jours après, ou le lendemain, quand j'ai fini le livre, j'ai été acheter le tome 2, qui était un peu plus long, toujours des petits chapitres, et que j'ai terminé là, pour le coup, dans l'avion. J'ai aussi acheté... Ah non, je l'ai terminé avant l'avion, ouais. Avant de rentrer. J'ai aussi acheté Le Petit Prince, qu'on m'a dit qui était sympa à relire d'année en année, parce qu'on l'interprète de manière différente, on comprend des nouvelles choses, etc. Je l'ai fini aujourd'hui. J'ai aussi acheté un autre livre à Montréal, dans une petite librairie de quartier Laurier, qui est en face du Méchant Pinson, qui est en face de Frites Alors, si jamais vous voulez aller voir. C'est tenu par Léo, qui est un passionné de livres. Sa bibliothèque, sa librairie est vraiment magnifique. Il me semble que c'est Livre à Soi, le nom, quelque chose comme ça. Enfin bref, quartier Laurier, en face du café Méchant Pinson, en face du Frites Alors. Allez-y si vous voulez. Et en fait, je me suis dit, si ça t'a autant aidé, Léa, essaye de prendre une nouvelle habitude. Avant de dormir, tu lis un livre, tu n'es pas sur ton téléphone, tu ne checkes pas des trucs qui pourraient t'inspirer, qui pourraient te stimuler, qui pourraient même te stresser. Parce que mine de rien, j'ai l'impression que dès que j'ouvre TikTok, je vais chialer. Parce qu'on parle de mes peurs, c'est-à-dire de la mort, de la perte de proches, de maladies. C'est des trucs qui, moi, m'angoissent et me culpabilisent pour des tout et rien. Et pareil le matin. La première chose que j'ai envie de... j'ai du mal. Hein. Franchement, j'ai du mal en fonction de l'heure à laquelle je me réveille en plus. Parce qu'avec le jet lag, quand je me suis réveillée à 11-12 heures, j'avais du mal à ne pas regarder mon téléphone parce que je savais que j'avais des obligations, je savais que j'avais des messages qui rentraient. Donc, obligatoirement, j'avais envie de prendre mon téléphone. Mais j'ai aussi envie le matin, c'est ce que je faisais à Montréal. Première chose, lire quelques pages d'un livre. Pour que mon cerveau soit vraiment apaisé, dans un bon mood, stimulé mais de façon mimi et jolie et par des mots plutôt que par un écran et par des trucs qui vont un peu dicter mon humeur. Et je pointe plus TikTok pour ça parce que j'ai l'impression qu'avec Instagram ça va, mais peut-être que vous ça vous le fait. En tout cas bref, c'est plus TikTok qui m'envahit un peu plus émotionnellement. J'ai lu un livre du coup en rentrant qui s'appelait aussi Chercher Sam. Et Chercher Sam du coup c'est un roman québécois et sympa, mais il m'a quand même un peu atteint lui émotionnellement parce qu'elle a... J'ai pleuré quoi. Mais j'ai pleuré et franchement c'est un livre qui était quand même dur et c'est la première fois que je pleurais devant un livre. Et ouais, en fait le livre ça peut aussi atteindre les émotions. Donc j'essaye de lire des livres qui vont me donner du baume au cœur et qui vont plus m'aider à m'échapper un peu plutôt que des livres qui vont justement me faire remettre en question ou mettre des peurs, genre des maladies, la mort. C'est des trucs qui... J'ai pas envie de penser à ça, genre quand je lis un livre. Si vous avez à me recommander des livres qui sont mimi, assez prenants, parce que sinon mon attention part, évidemment, mais sur lesquels on peut se focus et un peu partir de la réalité pour s'endormir, pour se réveiller, des livres mimi, n'hésitez pas à me les conseiller sur le compte Instagram de Simple Caféine. J'ai besoin de vous pour ça, parce que j'ai aucune idée et j'ai la flemme d'acheter des livres pour pas les lire. Genre franchement, c'est pas ça mon but. Et si vous connaissez des endroits où je peux acheter des livres en seconde main, à Paris ou à Bruxelles, n'hésitez pas à me le dire aussi. À Montréal, il y a un autre truc qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup aidé à déconnecter et qui m'a aussi aidé à faire remonter mon estime de moi parce que mine de rien, le fait de pas bien aller ou de pas être à mon plus haut potentiel en termes de bonheur, c'est voir des gens que j'aime et qui sont mes amis au Québec et à Montréal. Le nombre de personnes que j'ai vues à Montréal, genre sincèrement, et j'ai pas vu toutes les personnes que j'aurais voulu voir, mais j'en ai déjà vu beaucoup, et évidemment j'ai fait en fonction de ce que les gens pouvaient faire aussi, parce que bah, tout le monde a une vie, et moi j'ai débarqué comme ça, en prévenant 3 jours avant, « Hey, je viens à Montréal, donc si jamais tu veux me voir », évidemment j'ai pas pu voir tout le monde, mais le nombre de gens que j'ai vus a vraiment rempli mon cœur, vraiment genre rempli mon cœur d'amour. En fait, j'avais oublié que j'étais autant entourée parce que bah, je suis à plus de 6000 km d'eux, parce que bah, je suis nulle à envoyer des messages. C'est pas comme ça que je connecte avec les gens. À moins qu'on m'envoie un message et qu'on me dise « Hey Léa, ça va pas trop, j'ai besoin de te parler » ou « Hey Léa, j'ai envie de te partager ça parce que j'ai une chouette nouvelle et j'ai envie que tu sois au courant. Bah, » en fait, faire du small talk en message, moi j'arrive pas. J'arrive pas et je prends pas le temps, alors peut-être que je devrais prendre plus le temps. Je le fais un peu avec mes grands-mères de temps en temps, je le fais un peu avec mes parents. Mais je vous avoue que c'est pas mon fort. On va dire. Et avoir toutes les personnes que j'aime et voir en fait que j'ai autant d'amis, et j'ai presque envie de chialer en disant ça, mais à Montréal, de se faire tellement différente. Je suis restée en contact avec des gens, la majorité c'est des Québécois quand même, mais il y a des gens avec qui j'étais en cours, donc en neurosciences cognitives, avec qui j'ai été brunchée genre 1h30, 2h, mais on a catch-up sur nos vies, et puis je sais qu'on se reverra dans quelques mois, voire dans un an, mais on aura les mêmes catch-up, et en fait je me suis sentie aimée, supportée, et il y a des gens qui comment est-ce qu'on dit en français, je suis vraiment une connasse, qui care about me, genre qui font attention à moi, quoi, qui ont envie d'avoir de mes nouvelles, et moi j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles, qui ont maintenant des carrières très différentes, ça va moins bien dans quelques sphères. On a tous des sphères de notre vie où ça va moins bien, et ça je l'ai aussi remarqué. Et on a tous les mêmes problèmes à 23 ans, j'ai l'impression, ou autour de ces âges-là, c'est cette difficulté à soit décrocher de notre travail, soit décrocher. Bref, on a de la difficulté à gérer les sphères de notre vie, et du stress, et un sentiment d'être isolé, d'être un peu seul, et de temps en temps, on a les mêmes problèmes entre guillemets. J'ai vu des gens que j'avais rencontrés sur les réseaux, j'ai vu des gens qui font de l'entrepreneuriat, qui m'inspirent énormément. J'ai vu mes amis qui habitaient près de chez moi, avec qui genre je passe des moments incroyables. J'ai vu des gens de sphères tellement différentes, et ça m'a tellement fait plaisir de me rendre compte que j'ai des amis autant différents et que j'ai toujours les mêmes liens avec eux. Et je les vois successful et je les vois parfois un peu déstabilisés avec quelques problèmes de leur vie. Et ça fait juste partie du fait d'avoir 23 ans, du fait d'avoir 29 ans, du fait d'avoir 18 ans, sincèrement. En fait, j'ai pris le temps de prendre le temps pendant ces semaines-là. Alors, pour que vous sachiez d'avance, j'ai pas enregistré de podcast avec des invités là-bas, j'ai pas spécialement enregistré de vidéos YouTube, j'ai filmé beaucoup de moments, et ça va sortir, ou bien c'est déjà sorti sur YouTube, mais j'ai arrêté de culpabiliser en fait de pas faire des choses. Et une des raisons pour lesquelles j'ai été à Montréal aussi, c'est parce que Montréal, justement, je connais, j'ai pas besoin de visiter. Mes amis m'ont fait déculpabiliser, ils m'ont dit « Mais Léa, arrête de culpabiliser de pas faire des choses, t'es ici pour prendre soin de toi, t'es ici pour qu'on prenne soin de toi, t'es ici pour voir les gens que t'aimes. » Et c'est vrai, c'est la raison pour laquelle j'ai été à Montréal. J'avais pas envie d'aller dans un autre pays et puis de vraiment culpabiliser de pas exploiter l'endroit, parce que bah, quand tu vas en vacances, t'as envie de, en tout cas moi personnellement, à part si tu vas dans un tout inclus, mais c'est pas ce que j'aime personnellement, tu visites, tu fais des choses, tu rentabilises ton voyage. Il y a des choses à faire que t'as l'opportunité de faire à côté de toi, pourquoi tu les fais pas? Et j'avais pas envie en fait de me culpabiliser avec ça, et c'est la raison pour laquelle notamment j'ai été à Montréal, et mes amis me l'ont bien rappelé ça. Un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, je pense, c'est vous croiser. Vous avez été tellement nombreux à venir me voir, et ça m'a mis énormément de baume au cœur. On a vraiment la communauté qui nous ressemble, en tout cas j'ai l'impression. Vous étiez adorables, vous étiez géniaux, sincèrement. J'avais dit que j'étais souvent au méchant pinson, alors du coup il y a beaucoup de gens qui venaient voir si j'étais là, et parfois qui s'asseyaient à ma table, parfois qui venaient me pitcher des projets, parfois qui... J'ai pas encore répondu au DM d'ailleurs, de projets qu'on m'a pitché au méchant pinson, parce que justement j'essayais de déconnecter du travail et de déconnecter des projets, j'essayais de reposer mon cerveau, mais ça m'a fait tellement plaisir. C'est des chouettes idées, vous étiez des trop chouettes personnes. J'ai organisé aussi un mini meet-up. Je m'excuse aux personnes que j'ai pas pu inviter. En fait, j'avais fait un sondage sur Instagram, sur mon compte LéaJPLF, mon compte perso, en demandant qui est à Montréal et qui voudrait qu'on se rencontre. Et en fait, vous avez été plus de 450 à Montréal, alors que ma communauté là-bas n'est pas énorme, à dire que vous aimeriez bien. Et mine de rien, bah 450 personnes, c'est énorme, surtout si chaque personne vient avec une personne. Je pouvais pas faire ça, il fait moins 10 degrés, c'était impossible. Et puis dans ces situations-là, je prends tous les cas de figure en compte, et je me suis dit, si jamais on est dans un parc qui fait froid, qu'il y a une personne qui glisse, qui tombe, j'avais envie que ce soit un moment cosy. Et donc du coup, j'ai refait un autre sondage en disant qui est là tel jour, vers telle heure, et aimerait qu'on se rencontre. Vous étiez encore plus de 100 à avoir voté, et donc finalement j'ai scrollé, j'ai pris des gens au hasard. Donc je m'excuse sincèrement si j'ai pas pu vous rencontrer à Montréal. J'espère qu'on aura une autre occasion. occasion. J'ai vraiment fait au hasard et ce moment était génial. Je m'excuse sincèrement aux autres personnes, mais le moment qu'on a vécu ensemble était trop bien. On est resté quoi, 3 heures au café Méchant Pinson, donc de mon amie Sophie. On a parlé café, on a parlé de vous, on a parlé de vos expériences, parce que en fait les gens qui étaient là c'était tous des expats, soit qui étaient là depuis longtemps, soit qui venaient d'arriver. Mais c'était un moment tout doux, comme un partage de podcast. On a parlé de vos projets, enfin c'était trop chouette en fait. Vous m'avez posé des questions, c'était un moment tellement chouette et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de plus organiser cette année, parce que je me rends compte que c'est tout autant important pour moi de vous rencontrer que de poster des podcasts, que j'ai vraiment envie de faire des choses avec vous, mais il faut que j'arrive à trouver le temps d'organiser ça. Et au-delà du temps, il faut que j'arrive à organiser ça. J'ai l'impression que ça, je peux pas le faire toute seule, vraiment. Et être 3 heures à un café à parler, 3 heures dans une journée, c'est énorme. Si on part du principe qu'on travaille normalement 8, 9, 10 heures par jour, 3 heures, c'est énorme. C'est un tiers de la journée. Et ça m'amène au point suivant que j'ai noté, c'est qu'à Montréal, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de vivre, j'ai pris le temps de faire les choses, j'ai pris le temps de me réveiller, j'ai pris le temps de parler avec des amis, j'ai pris le temps de ne rien faire, j'ai pris le temps de mettre mon cerveau sur off. Au début, ça a été très compliqué. Avec le recul, je l'avais pas encore le recul quand je vous ai fait la première partie, je pense. Mais avec le recul, en fait, mon cerveau a mis plus d'une semaine à bien vouloir se mettre sur pause. J'étais pas au courant qu'un cerveau, ça mettait autant de temps à se mettre sur pause, en fait. Sincèrement, si je dois être honnête avec vous. Et c'est vrai que Ise, encore une fois, m'a dit, c'est vrai que moi, j'ai déjà lu qu'un cerveau met 2 semaines avant de comprendre qu'il est en vacances, entre guillemets. J'ai pris le temps de pleurer aussi. Mais plus particulièrement, c'était pas pleurer toute seule, c'était j'ai pris le temps de pleurer, mais surtout d'être vulnérable. J'ai été super vulnérable et en fait j'en ai parlé avec un ami, parce que il y a eu une période à Montréal où dès que je voyais des amis, j'arrivais, je les voyais, ils me demandaient si ça allait, je tombais en larmes parce que j'avais, si je dois être honnête avec vous, j'avais peur en fait de pas savoir reprendre le rythme. En fait j'avais peur de me réabîmer et je me suis tellement mis dans un état, je suis très honnête avec vous, ok, aussi parce que ça va mieux et parce que je prends vraiment des nouvelles habitudes et je réorganise tout, et parce que je pense que c'est la clé pour aller mieux. Et je m'écoute aussi. Je sais plus ce que j'allais dire, je me suis perdue. Ça a pas changé par contre. J'oublie toujours. Et d'ailleurs, mes pertes comme ça de moments, le fait de pas finir mes phrases, des trucs comme ça, c'est parce que je suis pas dans le moment présent. Je le sais maintenant, je le sens vraiment. J'ai pris le temps aussi de répondre à mes questions, de comprendre un peu mieux mon corps. Pourquoi est-ce que j'avais autant peur de quitter mon appartement? Parce que dès que je quitte mon appartement, j'ai peur qu'il prenne feu, j'ai peur de mal avoir éteint quelque chose, j'ai peur de mal avoir débranché quelque chose, j'ai peur de pas avoir fermé la porte. En fait, c'est parce que je suis pas dans le moment présent et donc j'oublie. Et le fait d'oublier, ça me fait peur. Mais bref, oui. Dès que je voyais mes amis, je tombais en larmes. Je tombais en larmes devant beaucoup de mes amis, la plupart en fait. J'avais peur de pas savoir reprendre le rythme et en fait, j'avais peur de tellement avoir peur de me refaire du mal que j'aurais plus voulu faire ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, mon métier, c'est ma passion. À la base, ma passion, faire les réseaux, créer du contenu, c'était on the side de mes études. Et en fait, quand ta passion devient ton métier, ça met des enjeux, ça met une pression, je pourrais faire un podcast complet là-dessus, je pense, parce que c'est ça en fait qui a fait en sorte que j'ai été dans le trop, dans l'extrême, que c'était plus simple pour moi, que c'était plus simple du tout à vivre non plus. C'est que quand ça devient ton métier, et en fait quand t'as la chance de faire que ta passion devienne ton métier, il y a un truc de légitimité. Je dirais pas d'imposteur, mais vraiment juste de légitimité, de se dire si j'ai la chance de faire ça, je le fais à fond. Et c'est ce que je me suis dit quand j'ai décidé de ne pas continuer mes études après avoir fait une neurosciences cognitive, après avoir fait le certificat en innovation et entrepreneuriat en ligne avec le HEC Paris. Quand j'ai eu fini tout ça, en fait il y a eu ce truc de ok, maintenant Léa, t'es à Paris, t'es là où tu veux, tu fais ce que tu veux, t'essayes d'en vivre, tu te donnes à fond, parce que j'ai aussi envie de prouver aux gens autour de moi que ce que je fais, c'est méritant. Et je le sais que je bosse beaucoup, et les personnes autour de moi les plus proches, celles qui suivent ce que je fais, je pense vous, mes parents qui m'ont vu bosser très tard, très tôt, sortir des idées, signer des contrats, ma meilleure amie, à qui je parle beaucoup ouvertement de tout ça parce qu'elle sait que depuis mes 13 ans, 14 ans, je fais des vidéos et que ça sort pas de nulle part et que elle le sait, ils le savent, mais les autres le savent pas. Et je pense qu'il y a ce truc de vouloir être légitime aussi auprès des gens qui potentiellement n'ont pas cette chance-là que moi j'ai. C'est comme si du jour au lendemain t'arrives à vivre de la musique, du jour au lendemain t'arrives à vivre de ton art, de ta passion en général. Il y a ce truc de du coup vouloir en faire plus pour mériter ta place. Je me suis perdue dans ce que je voulais dire encore une fois. Et donc je pleurais devant mes amis et j'osais pas trop en parler, j'osais pas être vulnérable parce que mes amis sont pas spécialement entrepreneurs. Donc ceux qui sont entrepreneurs, c'est plus facile pour moi de leur parler de choses comme ça parce que je me dis, je sais qu'ils vont comprendre et non pas que les autres peuvent pas comprendre, mais j'ai pas envie de blesser les autres. J'ai pas envie qu'ils se disent, mais attends, ma vieille, t'es sérieuse, genre tu fais des vidéos sur YouTube. Et pas en mode dénigrant, mais juste, pourquoi tu te mets autant de pression? Tu fais des podcasts et de loin, enfin moi je peux comprendre, hein, je sauve pas des vies, je suis pas médecin. Je veux dire, à un moment donné, il faut que j'arrête j'arrête de me mettre cette pression-là, ou en fait c'est cette anxiété, cette pression de performance que je me suis mise. Je pense que vous comprenez aussi beaucoup de choses du coup de mes podcasts, du calendrier de l'Avent, il me semble, avec tout ce que je vous dis. Mais donc du coup j'en ai parlé ouvertement à mes amis qui sont pas du tout dans ce monde-là. Quand je parle de mes amis, je veux pas vexer personne de Bruxelles, parce que je suis pas encore retournée à Bruxelles, du coup j'en ai pas encore parlé à mes amis de Bruxelles. Ils savent que je vais pas bien parce que je leur avais dit que ça allait pas trop, pas que je vais pas bien, que je vais pas super bien, on va dire. Et là ça va mieux, mais je leur ai mentionné par message que ça allait pas, mais je leur ai pas expliqué tout ça vu que je les ai pas vus, et vu qu'encore une fois les messages et moi, bah c'est pas ça. À Montréal, mes amis m'ont, que je pensais qui allait le moins comprendre, qui allait potentiellement le plus être en mode elle se fout de la gueule de qui là, c'est bon, relax, détends-toi, ou qui allait, vu que j'ai beaucoup de sarcasme et que je parle avec beaucoup de sarcasme et beaucoup de dérision envers moi-même, bah je pensais que c'était ce que eux allaient le moins comprendre, ou en fait c'est, ils m'ont pris dans leurs bras. Je vous mets dans le contexte. Alors comment tu vas, quoi de neuf, ça fait longtemps. Moi qui tombe en larmes, mes amis qui disent mais qu'est-ce qui se passe Léa? Moi qui leur explique, j'ai trop travaillé, j'ai trop fait, j'ai trop tiré, j'arrive pas, je me sens angoissée, je me sens stressée, ça va pas, j'ai une boule, j'ai mon cerveau qui palpite et j'arrive pas à le contrôler, et je comprends pas, ça sort de nulle part de temps en temps, alors que genre j'ai toujours été une personne qui va bien et je comprends pas. Et mes amis m'ont tous dit, mais Léa, tu te fous de ma gueule ou quoi? Évidemment, tu bosses énormément, on te voit bosser, on sait que tu bosses énormément, tu bossais énormément quand t'étais à Montréal, tu bosses énormément quand t'es à Paris, tu sors pas de chez toi, c'est normal, on le voit. Et en fait, avoir ces mots-là d'amis que j'aurais pas soupçonné, bah en fait ça m'a fait du bien, ça m'a remis à ma place de c'est normal que ça va pas et tu vas juste prendre des nouvelles habitudes. Donc j'en ai parlé à beaucoup de gens, ils ont tous eu la même réaction. J'ai une de mes amies, Lydia, que j'aime de tout mon cœur, qui m'a tiré les cartes au tarot. Genre de truc normalement où j'ai super peur, mais bon, je me suis dit let's go hein. Et on le fait, j'ai eu des bonnes nouvelles. Donc c'est trop bien, c'est génial, ça fait du sens dans ce vers quoi je veux aller. Et en fait, le truc qui revenait le plus et le truc pour lequel je me bloquais, et j'ai... Ah non, aussi, j'ai parlé avec mes amis justement du fait d'être vulnérable et je leur ai dit, ça me fait chier parce que je suis la première à dire que c'est pas grave de pas aller bien, mais d'habitude c'est pas moi qui vais pas bien. Normalement, je vais bien et là je vais mal. Et mes amis m'ont dit, Léa, tu vas pas mal, tu vas pas bien. Et c'est ok, et c'est normal. Et détends-toi, et on est là, et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu nous appelles. Si tu butes avec quelque chose, si t'as besoin, si on peut t'aider d'une certaine manière, fais-le. Ils m'ont dit, si t'habitais encore à Montréal, on viendrait frapper à ta porte, on te sortirait. Et ils m'ont dit, mais comment est-ce que t'arrives à pleurer sur YouTube pour ton départ de Montréal? Comment est-ce que t'arrives à parler de tes angoisses à ton podcast? Comment t'arrives à être super vulnérable devant genre des milliers de personnes et pas avec nous? Et en fait, ça c'est peut-être très difficile à comprendre pour mes amis, mais je sais pas. Non, pas que je sais pas, mais c'est plus facile pour moi de me confier à vous que de me confier à eux, parce que bah j'ai pas envie d'être cette personne-là qui va moins bien, mais pourtant il faut que je le sois parce que c'est la réalité et c'est pas grave. Je suis la première à vouloir aider mes amis quand ils vont pas bien. Même quand moi je vais moins bien, ça me fait du bien d'être là pour eux, sincèrement. Bref, j'ai appris à être vulnérable auprès de mes amis. Un peu plus auprès de ma famille, même si c'est pas facile. Je me suis pas vraiment laissée aller devant eux. Mes parents un peu, mais pas 100%. Mais ça m'a fait énormément de bien que d'aller à Montréal. Là, en rentrant à Paris, j'ai été voir un ostéo. Un ostéo qui fait de la médecine chinoise et qui essaye de me faire un reset de mes émotions. Il est génial. Je suis rentrée dans son bureau, j'ai pleuré. Il a vu que... il y avait des choses à travailler. Et c'est Cathy, avec qui je travaille, qui me l'avait recommandé depuis longtemps. Et je l'avais vu dans la story de plusieurs créateurs de contenu, en fait, il me semble. Il s'appelle Gabriel Ostéopathe, je pense, sur les réseaux, un truc comme ça. Il fait du contenu aussi, justement, quand les gens ont des douleurs et tout. Je vous en parle juste parce que je sens qu'il m'aide beaucoup à mettre des mots sur comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça. Et vraiment, le pouvoir du corps sur la tête, le pouvoir de la tête sur le corps, c'est incroyable. Je suis la première à dire qu'il faut aller voir quelqu'un. C'est dans ma checklist et j'ai absolument pas honte de le dire. Je pense que si j'avais parlé de ma culpabilité, si j'avais parlé de mes angoisses, si j'avais parlé de tout ça à quelqu'un en vrai, pas juste sur mon podcast, et puis en allant dans les détails de trucs qui me culpabilisent, bah je pense que ça aurait été un peu mieux plus vite. Donc il faut que je le fasse. Si je l'ai pas fait dans le mois, vous pouvez me taper sur les doigts. J'ai vraiment pas honte de dire qu'il faut que j'aille voir quelqu'un pour ça, parce que justement, si j'arrive pas à être vulnérable auprès de mes amis, si j'ai pas envie de leur parler spécialement tout le temps quand ça va moins bien, pas que ça va mal mais que ça va moins bien, on est d'accord Léa, bah je pense que ça vaut la peine d'aller voir un professionnel de la santé qui va pouvoir me donner des outils et m'aider à voir les choses sous un autre angle et donc à prendre les choses avec un peu plus de légèreté et surtout bah arrêter d'avoir des peurs irrationnelles. Je me livre beaucoup hein, dans cet épisode, ça change pas trop mais j'espère que ça va pouvoir vous aider. Un autre truc aussi que j'ai compris, auquel je vais faire très attention, je vous ai parlé en bref et j'en parlerai peut-être dans d'autres épisodes mais j'ai pas non plus envie que ça tourne que autour de ça parce que là ça parle beaucoup de moi mais c'est pour vous faire un update et j'espère que ça pourra aider des gens encore une fois, c'est le but. Mais j'ai compris un peu d'où venaient mes crise de panique. J'en avais jamais fait avant, ok? Enfin oui, j'en avais fait une ou deux avant, dont celle que je vous ai lue dans l'épisode sur la santé mentale, quand je vous ai lu l'espèce de journal intime, quand j'avais retranscrit la fois où j'avais l'impression de ne pas être dans le moment présent, de pas être dans mon corps. Enfin, c'était bizarre, un moment d'angoisse, quand j'avais trop travaillé. Bah, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, sauf que là, je les contrôle pas, et en fait, il y a des déclencheurs. À Montréal, quand le moindre déclencheur de stress, même autour de Noël, me mettait dans un état... Mon corps se protège, je pense, je sais pas, hein, ok? Je fais de la thérapie à deux balles, c'est pas de la thérapie, ok? Je suis pas professionnelle de la santé, encore une fois. Mais lorsque j'avais un déclencheur de stress, j'avais l'impression de voir du brouillard dans ma tête, d'un peu ventiler, de sortir de mon corps, comme si mon corps, je sais pas, hein, encore une fois, je suis pas sûre. Je mets des mots sur ce que je ressens, mais je suis pas sûre que c'est ça. Comme si mon corps se protégeait. Et en fait, quand on aborde certains sujets autour de moi, quand quelqu'un dit que il se sent pas bien parce que il, elle, y elle travaille trop, que il se sent débordé, qu'il se sent pas en contrôle, etc. Quand quelqu'un me dit ça, ça fait comme un effet de résonance en moi. Je m'identifie énormément. Ça va moins bien. Ça va pas bien. Je sens mon corps réagit mal à cette information. Quand des gens dans l'influence me parlent de quelqu'un qui va mal, de quelqu'un qui est en dépression ou de quelqu'un qui arrête les réseaux pour telle raison, ou quelqu'un qui... En fait, quelque chose auquel je peux m'identifier, ça me met dans un état vraiment pas bien. Vraiment pas bien du tout. Mais au moins, je sais d'où ça vient. Donc, il faut qu'en ce moment, j'évite ces stimuli-là, ces moments-là, quand on parle de... Ouais, de... En fait, faudrait qu'il y ait des trigger warnings pour moi. Mais c'est des trucs qui sont encore légers. Enfin, je sais que ça va aller mieux et je sais qu'il faut juste que j'apprenne à réapprivoiser mon temps, que je me couche tôt, que je récupère mes heures de sommeil. Enfin, j'ai plein de choses à vous dire. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais j'essaye de mettre des nouvelles meilleures habitudes de vie et de réorganiser tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se réorganisent, mais je reprends tout doucement quand vous aurez ce podcast aussi. Là, pour moi, on est le 18 janvier, mais quand vous l'aurez, je sais pas quand, pour la saison 5, c'est le premier épisode d'ailleurs de la saison 5 de Simple Caféine. Je pense que j'aurai à peu près tout remis dans l'ordre. Et en ce moment, je m'écoute. Quand j'ai envie de bosser sur la marque de café, je bosse sur la marque de café. Je mets mes idées au clair. Je fais du brainstorming. Quand j'ai envie de bosser sur mes vidéos YouTube, je bosse sur mes vidéos YouTube. Quand en pleine journée, à l'heure du midi, j'ai envie de faire ça. Parfois, il y a des obligations, comme dans tout. Et j'ai des obligations aussi. Et parfois, quand j'ai un call, même si ça va pas bien, je prends le call. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas en claquant des doigts que tout change. Mais je sens que je m'écoute plus et ça fait du bien. Et je vous le conseille énormément. Ce début d'année peut être très angoissant par rapport à tous les nouveaux objectifs de tout le monde, etc. Et bah parfois, avoir l'objectif d'aller bien et de prendre soin de soi avant de tomber dans un truc où ça va moins bien et qui est plus difficile à rattraper et qu'il faut soigner, bah parfois c'est bien de prendre le taureau par les cornes au début, avant qu'il fasse son tracé de chemin. Ça veut rien dire ce que je dis, je pars dans tous les sens. Bref, aujourd'hui j'ai passé une très bonne journée, je pense que ça s'entend. Ce podcast est beaucoup trop long à mon goût. Je sais pas ce que j'aurais gardé, je sais pas ce que j'aurais pas gardé. En tout cas, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ça va beaucoup mieux, je pense que vous pouvez l'entendre. Et encore une fois, c'est parce que bah, je m'écoute. Merci de m'avoir écouté jusque-là, si vous l'avez fait. Je vous aime beaucoup, trop contente d'aimer ce que je fais. Et je l'aime sincèrement. Et ça m'avait vraiment manqué de pas faire des podcasts, de pas créer énormément, de ça m'a manqué mais en même temps ça m'a fait du bien et parfois bah c'est ce qu'il faut. Si vous m'auriez dit il y a un an, Léa, t'aurais ce petit down de un mois au début d'année, fin d'année, début d'année, je vous aurais dit arrête de mentir, c'est impossible, c'est pas possible, je suis trop passionnée, j'aime trop ce que je fais, c'est pas possible. Et en fait bah ça arrive à tout le monde et je pense que ça fait partie du truc et je suis contente de l'avoir à 23 ans et de maintenant plus connaître mes limites et plus me connaître qu'il y a quelques semaines. Merci d'ailleurs de m'avoir laissé le temps de prendre le temps de prendre soin de moi. Merci pour vos partages en story, merci pour vos messages Mimi, merci pour les derniers lancements, merci pour tout ça, ça m'a fait je suis très heureuse et très fière de la communauté que j'ai, de ce qu'on a et de ce qu'on est. J'aurai certainement plus de recul sur la situation et sur comment je me sens, donc peut-être que je réaborderai le sujet plus tard. En attendant, bienvenue dans la saison 5 de Simple Caféine. Je suis contente de la commencer maintenant sur une vraie respiration honnête, sincère, saine et mieux organisée. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS, à lundi prochain. On se retrouve comme lors des prochaines saisons, tous les lundis matins, dès votre réveil, votre dose de caféine. Bref, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS. Bye!